Bonjour, vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud Ankawa, je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance. Je suis également romancière, coach et conférencière. Mais surtout, quelle que soit mon activité, j'aspire au bonheur, qui est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences et de mes voyages. Ce qui d'ailleurs a inspiré l'écriture de mes trois romans, devenus aujourd'hui grâce à vous des best-sellers, Kilomètre Zéro, Respire, le plan est toujours parfait et Plus jamais sans moi. Et aujourd'hui, si je suis ici à ce micro, c'est dans l'espoir de continuer à échanger avec vous en toute intimité, de cœur à cœur sur nos expériences de vie. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour parler de la peur de l'avenir. Merci mille fois à vous tous, chers lecteurs, chers auditeurs. Vous m'envoyez vos lettres, vous m'envoyez vos commentaires, vous boostez un petit peu mon quotidien. Donc merci pour ça, merci de m'encourager, de me suivre dans cette grande aventure. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la lettre d'Armand. Bonjour Maud, merci pour vos podcasts que j'ai découverts par hasard, mentionnés dans l'un de vos livres. Ils m'aident beaucoup. Aujourd'hui, je vous écris car je n'arrive plus à maîtriser mes peurs concernant l'avenir. Ça a commencé il y a quelques années quand je me suis sensibilisée à l'écologie et à l'avenir de la planète. Au début, j'arrivais à être dans l'action, à me rassurer par mes actes et par les initiatives mises en place autour de moi, mais plus le temps passe, plus l'avenir me semble sombre et plus j'angoisse. Je me suis détachée des journaux et de l'actualité pour me préserver, mais dès que je me couche le soir, mon cerveau aime me présenter des scénarios catastrophes, parfois réalistes malheureusement. Donc le gros problème que je rencontre depuis peu, maintenant, c'est que ces scénarios m'empêchent de me projeter dans un avenir plus personnel. J'ai peur de changer de métier, j'ai peur d'acheter une maison ou de m'engager avec quelqu'un, tant l'avenir me semble incertain. Je ne fais que me répéter à quoi bon. J'aimerais savoir comment faire face à cette anxiété, ces inquiétudes constantes qui me rongent. Armand. Merci Armand pour cette lettre. Je suis toujours touché par la façon dont vous mettez à nu tous, et c'est ce qui fait qu'ensemble, on peut grandir. J'aimerais faire d'ailleurs une petite parenthèse quant à la planète, parce que c'est vrai que j'entends souvent parler que la nature est en danger, qu'on ne fait pas assez pour la planète. En réalité, je suis toujours un peu choquée de voir que finalement, on n'a pas cette conscience que le problème, ce n'est pas la planète. La planète, elle n'est pas du tout en danger, je pense. Elle a vécu des millions d'années sans nous, et elle vivra des millions d'années sans nous. Et sans doute beaucoup mieux d'ailleurs sans nous. Le vrai problème, c'est pour la race humaine qu'il faudrait s'inquiéter. Parce que moins on prend conscience que la planète nous aide à survivre, et plus on est en danger de mort. Bon, ça c'était la petite parenthèse nature, et c'est vrai que si on peut prendre conscience qu'on a beaucoup de chance de vivre dans cette nature et que ça vaut le coup de la préserver avant tout pour nous déjà, peut-être qu'on pourrait vivre autrement. Donc je comprends tes inquiétudes autour de la planète, ça je les comprends très très bien. C'est une réflexion que je me faisais et effectivement, prenons conscience de ce que nous offre la nature et comment on peut vivre avec. Alors, concernant effectivement cette anxiété, apparemment, c'est sûr que la première clé que j'aurais envie de livrer, c'est de revenir à ce moment présent. Alors, on parle beaucoup du moment présent et parfois c'est même énervant parce que oui, il faut vivre dans le moment présent, oui, il faut revenir à soi et c'est pas toujours facile quand on est vraiment inquiet. Et pourtant, c'est quand même la clé. Et revenir au moment présent, c'est pas juste « allez hop, j'y pense, je reviens dans le moment présent, bon allez hop, je me fais un petit café, puis la vie est belle ». Non, non, c'est prendre du temps pour revenir vers soi, revenir à sa respiration, prendre un temps. Plus on met de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre là tout de suite, c'est-à-dire peut-être nos sens. Moi, ce qui m'aide beaucoup, quand je suis pris comme ça dans des flux de pensées qui m'amènent à des scénarios parfois un peu difficiles, c'est juste de se poser… Tiens, qu'est-ce que je ressens? Ah, je ressens peut-être une contraction dans le plexus. Ma respiration est saccadée. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je touche? Qu'est-ce que je vois? Etc., etc. Et là, le simple fait d'être concentré sur sa propre respiration, sur ses sens, ça va calmer immédiatement le flux automatique de nos pensées. Je vous invite vraiment à le faire. Il ne s'agit pas de prendre 3 heures, c'est juste parfois 1 minute. Tiens, si je ferme les yeux là... Qu'est-ce que je sens? Tiens, il y a l'odeur des chouquettes, ouais, parce qu'on est très gâtés chez Erol. On a les chouquettes, on a des petits croissants, etc. Donc au moment où je ferme les yeux et hop, j'inspire, je sens l'odeur des viennoiseries qui arrivent à mes narines. Et le simple fait d'être concentré sur ce parfum, qu'est-ce qui se passe? Le flux de mes pensées se calme. Tiens, et qu'est-ce que je peux toucher? Là, je peux toucher mon fauteuil, quelle est la température, etc., etc. Vous voyez, le simple fait de prendre quelques secondes, immédiatement, le flux des pensées s'apaise. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai compris, des concepts stoïciens, et je voudrais en partager avec vous, parce que un des concepts expliquait que souffrir par anticipation, c'est souffrir deux fois. Une fois avant que le problème survienne, et une autre fois lorsqu'il se produit réellement. Et ça, je trouve ça très juste. Moi, ça m'a beaucoup aidé de me rendre compte que quand on anticipe quelque chose d'inconnu, finalement, parce que les scénarios que notre cerveau a tendance à faire, c'est des scénarios d'inconnu. Parce que s'il y avait un réel problème concret, ben, naturellement, on aurait des solutions concrètes. Alors évidemment, quand c'est très généraliste comme ça, là, on parlait de la planète, bon, évidemment, c'est des choses très généralistes. Mais si concrètement, il y a une chose qui nous gêne et on y met de la conscience des actions, eh bien, petit à petit, on va pouvoir avancer. Par contre, quand on a un problème très large, qui est parfois pas assez ciblé, eh bien, on va souffrir par anticipation. Et naturellement, on souffre inutilement, puisque on va souffrir une première fois avant que le problème survienne, et une autre fois lorsqu'il se produit réellement. C'est ce que tu disais, ben voilà, j'ose même plus m'engager à changer de métier, à acheter une maison, à m'engager avec quelqu'un. Mais voilà, le simple fait que tu n'oses plus t'engager avec quelqu'un, ben ton cerveau est en train de créer des scénarios de catastrophe. Et si cette personne me faisait souffrir, et si ça ne marchait pas, ben je préfère mon connu plutôt que de vivre quelque chose qui pourrait amener à autre chose. Donc le simple fait de souffrir autour de quelque chose qui n'existe pas, ben c'est une première souffrance. Et puis ben, quand on le vit, si on arrive à le vivre, eh bien, on souffre une deuxième fois quand ça se produit. Donc l'anticipation, hein, c'est vraiment un fléau pour nous, être humains, parce que souffrir pour un problème qui n'est pas encore survenu, et qui pourrait même ne jamais survenir, ben, vous remplit l'esprit de pensées négatives qui ont tendance à obscurcir le présent, et en plus qui vous distrait finalement, qui vous éloigne de vos responsabilités, ce qui réduit vos performances et attire de la négativité vers vous. On dit souvent que le déprimé vit dans le passé, l'anxieux vit dans le futur. C'est pourquoi vivre le présent est bon pour notre santé mentale, et je crois que c'est très juste. Plus on ressasse le passé pour lequel on ne peut pas faire grand-chose, plus on va vers le futur qui n'existera jamais, et plus on est en souffrance dans les deux cas, alors que c'est vraiment dans ce qu'on est en train de vivre, dans ce moment qu'on est en train de vivre, qu'on peut trouver des solutions déjà, et puis vivre pleinement les choses. Donc quand il n'y a pas de passé, quand il n'y a pas de futur, ben finalement il n'y a plus tellement de problèmes. Et vivre avec sérénité, bah, c'est quelque part accepter ce passé, qui ne peut pas être changé. C'est vivre le présent, car quelque part, il va vous préparer au futur. Il va même le construire. Alors, ce que j'ai envie de partager avec vous autour de cette anxiété, bah, je vais peut-être me baser un peu sur des concepts qui m'ont vraiment, vraiment aidé. Je cite rarement des concepts antiques, mais là, vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose, en tout cas, moi, des concepts qui m'ont vraiment, vraiment aidé autour de l'anxiété. C'est que l'inquiétude, et ça, on sait le prouver aujourd'hui, l'inquiétude découle de nos réactions émotionnelles. Plus je pratique l'autocontrôle, moins j'arrive vers l'inquiétude. Alors, c'est quoi l'autocontrôle, hein ? C'est pas de se contrôler dans nos émotions. Nos émotions, on en a déjà parlé, elles sont vitales. Mais apprendre à écouter l'alarme de notre émotion nous permet de poser les bonnes actions. Alors que si on n'écoute pas, eh ben, on est complètement sous le contrôle des événements extérieurs. Et comme l'être humain est émotionnel, il ne peut pas éviter de ressentir toutes ces émotions, comme la tristesse, comme la colère, comme l'euphorie. Et ces émotions, elles seront toujours présentes en nous. Et heureusement, hein, encore une fois, parce qu'elles sont vitales. Mais ce qui peut nous aider, c'est de les comprendre, les apprivoiser, afin d'arriver à trouver un état de stabilité dans ce qu'on est en train de vivre. Plus on laisse l'alarme grandir en nous, et plus l'inquiétude est de plus en plus forte. Ce qui peut conduire d'ailleurs à des dépressions, à une anxiété chronique. Alors, encore une fois, hein, plus nous focalisons notre attention sur quelque chose d'incertain et potentiellement même irréel, et plus l'esprit est surchargé et il se dirige directement vers l'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est vraiment le moment où finalement on a tellement d'idées dans la tête que bon, on surchauffe, quoi. Donc, plus on s'efforce de faire face à ce qui nous tourmente, plus l'inquiétude grandit et devient réelle. Donc soyez léger dans votre approche de toutes ces pensées, affrontez vos inquiétudes le plus tôt possible, parce que plus on met de la conscience sur toutes ces pensées qui nous polluent, et plus la vie va être douce. Quelque part, toutes ces pensées en boucle, c'est quand même une perte de temps précieux. Alors je sais bien que c'est automatique, hein, et on a tous des phases comme ça, donc heureusement, hein, t'es pas seul, Armand, à vivre ça, et ne t'inquiète pas, c'est simplement que peut-être il faut réduire petit à petit ce rythme effréné de ces pensées. Parce qu'en plus, comme on sait, hein, si on doit souffrir, eh ben on souffrira et c'est inévitable. Donc autant ne pas anticiper une souffrance qui n'existe pas encore. Alors, pour répondre plus concrètement à cette question de comment faire face à cette anxiété, face à ces moments qui sont extrêmement difficiles à vivre, eh ben, j'aimerais partager trois principes stoïciens. Un des maîtres, c'est Marc Aurèle, hein, l'empereur philosophe, qui a laissé des conseils profonds pour libérer l'esprit de ses tourments et vivre une vie plus paisible, plus alignée. Il dit d'ailleurs, l'erreur la plus grave que l'on puisse commettre est de vivre dans la peur de la commettre. Hein, c'est un des principes fondamentaux. Il y a la pratique de vivre dans le présent, comme on vient de l'évoquer, car la vie est action pour lui. Et dans ses actions, ben, pas d'anxiété, pas de regret. Je vis les choses et je fais de mon mieux et puis on verra ce qui se passe. Épictète qui disait aussi que l'inquiétude, c'est une activité mentale inutile. Effectivement, plus on met de la lumière sur cette inquiétude et plus on se rend compte que derrière, il n'y a rien derrière l'inquiétude. Il n'y a rien de fondé. Hein, 90% des activités que nous réalisons ont un but, sauf l'inquiétude. Elle n'a pas de but dans le monde matériel. C'est juste une illusion de notre esprit. Mais réellement, alors quand j'ai compris ça, ça a changé beaucoup de choses. À partir du moment où je voyais arriver l'inquiétude, je me dis « Ah oui, mais attends, ça c'est une illusion de mon esprit. » Parce que le reste a un but, mais là, il n'y en a pas. Ce qui nous fait souffrir, c'est l'inquiétude, parce qu'elle est souvent palliée à des faits réels. C'est lié à notre imagination qui crée des scénarios. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est dans notre imagination aussi qu'on va trouver les réponses à nos inquiétudes, et quelque part, elles se disperseront. Ah bah oui, mais s'il est arrivé ci, s'il arrivait ça. D'accord, mais là, est-ce que c'est le cas? Ah bah non, ce n'est pas le cas. On verra quand ça arrivera, si ça doit arriver. Mais on se rend compte que face à nos inquiétudes, bah souvent, plus de 9 fois sur 10, ben ça n'arrive jamais. Ou en tout cas, ça n'arrive pas à l'ampleur de ce en quoi on s'est inquiété. Hein, par exemple, je sais pas, on doit discuter avec notre patron, un collaborateur, on ne sait pas comment on va le faire, et puis on commence à s'inquiéter, et puis on se crée des scénarios, etc., etc. Puis une fois qu'on a la discussion, parce que ça c'est un fait réel, ben ça ne se passe pas forcément aussi dramatiquement que la façon dont on se l'était envisagé. C'est pourquoi on dit souvent que l'inquiétude c'est inutile. Oui, c'est vrai, parce qu'elle gaspille notre bien le plus précieux, qui est le temps. Et en plus, l'inquiétude nous éloigne des moments précieux qui, eux, ne se répéteront pas. Hein, ce qu'on est en train de vivre là tout de suite, ça ne se répétera jamais. Ce moment-là, il ne se répétera jamais. Et la vie, c'est l'addition d'un tas de moments, un tas de secondes. Mais cette seconde-là, elle est déjà passée et elle ne se répétera pas. Donc mettre de la lumière sur ce qui est important pour nous au présent, ça va commencer à détendre un petit peu cette inquiétude qui se produira peut-être dans le futur, mais peut-être. 90% de nos inquiétudes découlent d'une surabondance de pensées, encore une fois élaborées par l'esprit. Par conséquent, la plupart des inquiétudes ne sont en rien des peurs fondées. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir total de vous laisser dominer par elles ou de reprendre la télécommande. Dans son ouvrage « Penser pour moi-même » de Marc Aurèle, hein, ce philosophe, il parle de 3 principes. J'aimerais vous les livrer parce que vraiment, elles m'ont aidé. La première, c'est l'acceptation de la nature de la vie. Vraiment, le premier principe, c'est d'être lucide que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous pouvons contrôler certaines choses et d'autres pas. Marc Aurèle nous rappelle que la vie est pleine de défis, d'incertitudes, de changements inévitables. Et que c'est cette incertitude qui rend la vie belle. Donc, accepter cette réalité, c'est crucial pour éviter les inquiétudes inutiles. Il nous encourage même à reconnaître que beaucoup de choses échappent à notre contrôle et que l'adversité fait partie intégrante de l'existence humaine. Donc imaginer qu'on contrôle tout et qu'il ne va rien se passer, que la vie est une ligne horizontale, eh ben ça c'est impossible et on le sait tous. Hein. La vie c'est des hauts et des bas, un peu à l'image d'un électrocardiogramme. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, si tu es à l'horizontale, c'est que tu es mort. Donc voilà, le truc c'est que réellement, plus on a la tête dégagée de toutes ces pensées nuisibles, et plus on pourra mettre la bonne action. Donc en comprenant cette vérité, hein, on va pouvoir se diriger ou diriger notre énergie vers ce qui est à notre portée, vers nos ressources, nos réactions positives, notre attitude face à ces événements. Hein, donc, comme il le dit, accepter la nature transitoire et souvent imprévisible de la vie nous aide à aborder des situations avec plus d'équilibre et ça minimise en plus cette agitation mentale qui nous pollue la vie. Et alors ainsi, on peut commencer à distinguer les choses qui dépendent de nos actions, de la façon dont on vit, et celles qui n'en dépendent pas. Vraiment, il distingue bien ce que nous contrôlons directement et ce que nous ne contrôlons pas. Et d'ailleurs, il affirme, Marc Aurèle, que la plupart des inquiétudes surgissent lorsque nous confondons ces deux domaines. D'un côté, ce qui est sous notre contrôle, notre volonté, nos actions et nos réponses aux événements, et de l'autre, tous ces aspects de la vie qui échappent à notre contrôle, comme les actions des autres, des événements naturels, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée parce qu'on a tendance. Enfin, moi, j'avais tendance à mettre un peu tout dans le même sac. Il arrive un événement et ça m'inquiète, etc. Mais oui, mais il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Et à l'inverse, il y a des choses que je peux contrôler parce que ça émane de moi. Comme par exemple le fait d'être inquiet, bah, ça émane de moi, de personne d'autre, même si c'est lié à un événement extérieur. Ah, bah, ça, je peux le contrôler. Et ça fait du bien de le savoir parce que je peux peut-être mettre une conscience et puis agir pour que cette inquiétude descende. Mais par contre, je ne vais pas pouvoir agir sur l'événement extérieur qui s'est passé. Pas toujours, en tout cas. Le deuxième principe, c'est de concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons influencer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, lié à ce premier principe, ben, quand on peut agir sur ce qu'on peut influencer, eh bien, il faut concentrer nos efforts dessus et pas concentrer nos efforts sur ce qu'on ne peut pas faire ou pas changer. Et c'est aussi accepter humblement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas influencer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Nous pouvons éviter des souffrances inutiles et vivre plus légèrement. Mais à partir du moment où on comprend clairement cette distinction qui est de mettre toute notre énergie sur ce qu'on peut changer, eh bien ça va permettre de changer le résultat aussi. Et puis il y a des choses qui ne seront pas entre nos mains. Et là, ça ne sert à rien d'essayer de forcer. J'entends souvent par exemple « Ah oui, mais moi je change, mais c'est mon mari qui ne change pas. Alors du coup, moi je veux qu'il change. » Ben là, on ne peut rien faire contre ça. Il va changer s'il veut changer. Peut-être qu'en mettant de la lumière sur nos problèmes, sur la façon dont on veut vivre, etc., ça va peut-être naturellement l'aider à changer, mais il ne faut pas le faire pour que l'autre change, parce que pour ça, on ne peut rien faire. C'est à l'autre de décider s'il veut changer ou pas. Oui, mais dans ces cas-là, moi, je ne vais pas pouvoir rester avec lui, c'est compliqué, il ne veut pas changer, etc. Ce sera votre responsabilité. Si vraiment, au bout d'un moment, bah, ça ne vous convient plus et que c'est plus en phase avec vous, vous prendrez vos responsabilités, mais forcer l'autre à changer, c'est tenter de mettre toute une énergie qui est vaine parce que, clairement, c'est à l'autre de décider ou pas de changer. Parfois, il ne peut pas, parfois, il a des traumatismes, parfois, il ne veut pas, etc. etc. Donc là, je n'ai pas de pouvoir sur l'autre. Par contre, la seule chose que je peux, moi, changer, c'est peut-être que face à cet événement, eh bien, je puisse le prendre différemment. Alors ça, je peux le changer. Je vais apprendre à changer que quand mon mari réagit comme ci ou comme le voisin réagit comme ça, moi, je peux peut-être changer pour être moins impacté. Ça, j'ai le pouvoir de le faire, mais sûrement pas de changer l'autre. Donc le deuxième principe, c'est de concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons influencer. Et enfin, le troisième principe, c'est ce qu'il appelle la pratique du détachement. Plus exactement, la pratique du détachement émotionnel. Le stoïcisme nous apprend à ne pas être esclaves de nos émotions et à cultiver la capacité de les observer avec distance et sans obsession, j'allais dire. Hein, des fois, on est complètement obsédé, alors on est là, on boucle à observer un truc et puis on est focus sur le problème. Et... Non, non, là, c'est vraiment de prendre de la distance, d'observer nos émotions, donc de les ressentir, de ne pas les nier. Hein. Ce n'est pas « oh, je ressens de la tristesse, allez hop, vite, je vais me raconter une bonne petite blague et puis comme ça, je ne sens plus ma tristesse. » Ce n'est pas ça. C'est plutôt de prendre le temps d'observer notre émotion, d'en prendre de la distance, de ne pas se laisser submerger entièrement par notre émotion, mais juste voilà, de ressentir, par exemple, de la tristesse, de se poser, de la ressentir, de l'accepter, et d'observer qu'il n'y a qu'une part de nous qui est triste, ce n'est pas l'ensemble de notre corps qui est triste, parfois c'est juste une part. Donc Marc Aurèle nous encourage à analyser nos sentiments avec impartialité, en reconnaissant qu'ils ne nous définissent pas entièrement. Ce n'est pas parce qu'on est en train de vivre un drame dans une vie, qu'en ce moment on se sent très triste par exemple, qu'on est quelqu'un de triste. On a toujours tendance à « bah oui, mais moi je suis quelqu'un de triste ». Non, ce n'est pas parce que tu traverses quelque chose de difficile que tu es quelqu'un de triste. C'est juste qu'en ce moment, la tristesse t'a envahi le temps d'une réparation. Et en réalisant que nous sommes bien plus que nos émotions spontanées, nous allons finir par acquérir la capacité de choisir comment réagir. Donc pratiquer le détachement émotionnel, encore une fois, ça ne signifie pas de supprimer les émotions. Non, au contraire, c'est de les observer et de ne pas se laisser complètement gouverner par elles. De ne pas laisser ces émotions gouverner nos actions, notre esprit, notre vie. Parce que c'est nous qui commandons notre esprit et non l'inverse. Voilà, donc j'avais envie de partager ces trois principes. D'ailleurs, Marc Aurèle dit une phrase mythique qui résume assez bien ces trois principes. Il dit « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Voilà, ben écoute Armand, j'espère que ça répondra à tes questions sur l'anxiété. Évidemment, il y aura toujours des événements tragiques, des moments plus difficiles, et bien sûr qu'on vit dans un climat parfois un peu anxiogène, mais je crois que c'est de notre responsabilité, en tout cas, au-delà de notre responsabilité, ça peut aider de savoir que finalement, il y a peut-être des choses pour prendre un peu de distance qui nous permettent de vivre un peu plus détachés de nos fonctionnements habituels et automatiques et qui peuvent nous aider à vivre les choses un petit peu plus sereinement. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très prochainement dans un autre épisode de cette question que tout le monde se pose. À très bientôt. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon compte Maud Ankawa, ou consulter mon site internet maud-ankawa.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erol@gmail.com. Vous retrouvez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai également ravie de vous retrouver en librairie avec mes 3 romans, Kilomètre Zéro, Respire, Le plan est toujours parfait et Plus jamais sans moi. Un grand, grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.